avec la permission du président du Sénat que je viens de consulter officieusement, sa phrase disant qu'il avait le privilège de parler debout, alors que j'ai toujours vu au Sénat le président parler assis, je ne comprenais plus rien. Mais il m'a autorisé à vous parler debout, compte tenu de la configuration de la salle, c'est plus commode. Tout d'abord, peut-être une précision qui a été formulée à voix basse, ou du moins sans micro, donc sans haut-parleur. Les enfants qui ont joué tout à l'heure devant vous sont des enfants qui bénéficient de l'activité de l'association Quartier Libre 11, dans le 11e, et qui est une association dont plusieurs membres ici sont présents. Il n'y a pas seulement les enfants, il y a aussi des animateurs. Et c'est une association qui bénéficie du soutien depuis déjà 3 ans de la Fondation Seligman, que Françoise a créée il y a plusieurs années, dont nous sommes quelques-uns ici à exercer des responsabilités. Et c'est un des exemples de l'activité de cette fondation, de soutenir des projets qui sont menés le plus souvent par des écoles, dans le cadre d'établissements scolaires, écoles, collèges ou lycées, mais aussi par des associations, et très souvent par des associations qui sont nées dans le cadre scolaire. Et en l'occurrence, pour moi, surtout en présence de l'ancienne ministre de la Culture, ce sont des enfants qui bénéficient aussi du projet Demos, qui, dans la région parisienne, a lancé beaucoup d'enfants dans la musique. Et un des violoncellistes discrètement caché à l'arrière est un des violoncellistes de l'Orchestre de Paris que je préside depuis quelques années sur ordre de Catherine Tasca. Donc, on a des croisements assez intéressants. Et en effet, les activités soutenues par la Fondation Seligman sont souvent tournées vers la culture, la lecture, les musées. Il en sera parlé dans toute cette après-midi par d'autres que par moi. Juste 2 mots sur Françoise elle-même. Pourquoi se réunir pour parler d'elle? Pourquoi ici? Ici parce que c'est commode, parce que le président du Sénat nous invite, parce que c'est à Paris. Mais en vérité, la vie de Françoise, elle est assez dispersée à travers l'espace, puisqu'elle était née à Marseille et que sa vie commençait à Marseille. Il l'a emmenée de façon aventureuse à cause de la guerre, de la résistance dans laquelle elle est entrée très jeune. On aurait pu se réunir, on pourrait se réunir dans un des camps de prisonniers où elle jouait le rôle d'assistante sociale, on peut dire, débutante, où on pourrait se réunir à Lyon ou encore dans des lieux reculé à la frontière du Jura, où elle passait des enfants juifs pour les faire passer en Suisse, en prenant tous les risques, en passant par des souterrains parfois gelés, ou encore dans tel hôpital où elle est allée revolver au poing, libérer des camarades de résistance avec d'autres résistants armés, et elle-même avait une arme dont elle ne savait pas se servir, mais elle était très contente d'être armée et de participer à la lutte armée sans tirer, ou encore peut-être Place de la Madeleine. Un jour, il faudrait faire ça. Je vais apporter un document. C'était exactement le 21 août 1944, pas le 24. Paris n'était pas encore libéré et pourtant le journal Combat, son journal avec Camus, titre était imprimé. C'était un journal, c'est pas un grand journal, c'est un journal de 2 pages, c'est-à-dire un feuillet. Recto verso. Titre, l'insurrection fait triompher la résistance à Paris, la République à Paris. C'était pas vrai. C'était si peu vrai que les Allemands circulaient dans la ville et qu'elle était en voiture avec quelques camarades. Elle raconte ça dans une série. Elle avait 2000 exemplaires de ce journal dans la voiture et ils ont apporté à un endroit. Ils sont arrêtés par une patrouille allemande et elle dit à ses copains, on est mort. Mais pas du tout, l'officier allemand voit le paquet de journaux et dit, wie viel? Et il achète un exemplaire de Combat. Et il s'en va, et ils ont livré aux 4 coins de Paris. La vie aventureuse de Françoise Seligman, c'est quelque chose d'incroyable, qu'elle a un peu raconté dans ses livres, et qui est la vie aventureuse de beaucoup de jeunes gens et de jeunes femmes pendant la période de la résistance, qui ont été des héros. Beaucoup sont morts, souvent dans des souffrances terribles, déportés, et certains ont pu survivre et raconter. Elle raconte dans des livres, et elle a aussi voulu être journaliste. Alors là aussi, c'est un élément assez pittoresque de sa vie. Il y a 2 femmes à l'époque, à la Libération, qui ont créé chacune un journal féministe. Elle a créé La Française. C'était un bon titre patriotique et féminin. Madame Gordon-Lazareff a créé Elle. Comme vous le savez, un de ces journaux a une carrière plus longue et plus fructueuse que le premier. La Française a disparu après 23 numéros. Quant à Elle, c'est devenu un catalogue de luxe que chacun peut se procurer dans les kiosques. Françoise, c'est aussi, c'est vrai, le travail avec Mendès et toute cette période où elle a voulu participer à une renaissance, une réorganisation de la gauche, et pour commencer en se tournant vers la jeunesse. Le journal Après-demain, c'est un journal qui a été créé à l'origine autour des amis et camarades de la Ligue des droits de l'homme, et qui était un journal de documentation politique, de formation politique, qui n'était pas seulement un journal, qui était aussi une sorte d'organe d'un mouvement de conférences, de causeries. Vous savez, à l'époque où Mendès France parlait dans la radio régulièrement, il y a eu une espèce de renaissance, d'un développement d'une activité politique de revue qui foisonnait. Après-demain est peut-être le seul journal qui ait survécu pendant un demi-siècle. Sauf que, évidemment, aujourd'hui, les formes de documentation, politique, avec Internet et autres, sont assez attirants. Nous sommes quelques-uns à essayer d'organiser l'évolution de Après-demain, qui paraît toujours, vers des formes nouvelles de diffusion. Mais je voudrais surtout évoquer une autre dimension de ce qu'elle a fait dans l'esprit de sa participation à la vie démocratique, avec la création du prix Seligman. Mais je crois que Françoise Vergès, est-ce qu'elle est dans la salle? Ah oui, oui. Donc elle va en parler, elle est là pour ça, et je la laisse parler à son tour. Je voudrais simplement, pour conclure, évoquer le Sénat. Il y a beaucoup de femmes au Sénat aujourd'hui, beaucoup plus qu'autrefois. Il fut un temps où il n'y en avait pas du tout. Et il y a eu un bref moment où il y en a eu une de plus, c'était Françoise. Et la carrière, entre guillemets, le cursus honorum, de Françoise Seligman est à la fois majestueux et étincelant. Cursus honorum, elle n'a jamais été que au sommet, sénatrice. Et étincelant, c'est d'ailleurs comme une étincelle. Ça a duré très peu de temps. En effet, elle est devenue sénatrice, je ne dirais pas par accident, mais ça a été évoqué. Elle n'était pas destinée à être sénatrice, suppléante à la rigueur. Et puis il arrive que les suppléants deviennent parlementaires, députés. Il n'y a que deux circonstances, l'une favorable et l'autre fâcheuse, qui font qu'un suppléant devient parlementaire. C'est lorsque le titulaire parlementaire monte dans la hiérarchie des honneurs en devenant ministre, ou au contraire, connaît une fin dernière. C'est ce qui fait que Françoise est devenue sénateur. Pourquoi est-ce qu'elle ne l'est pas restée? Nous le savons, beaucoup d'entre nous le savent. Parce qu'à l'époque, une personnalité politique a jugé sans doute qu'il y avait quand même déjà trop de femmes au Sénat. Et par conséquent, il s'est présenté à sa place. Et c'est comme ça que Françoise a fait un passage bref, mais remarqué, et remarquablement bref, au Sénat, où elle aurait pu siéger très longtemps si les circonstances avaient décidé autrement. Parce que c'est une de ses caractéristiques. Ce n'était pas une femme sans ambition. C'était une femme sans ambition personnelle. C'était une femme d'un désintéressement complet, d'un dévouement absolu. Elle l'a montré par un travail assidu, par un engagement successif. Elle l'a montré quand elle avait 20 ans. Elle l'a montré jusqu'à son décès il y a un an. Et c'est un exemple pour beaucoup de gens qui l'ont connue. Et je pense dans l'avenir, indirectement, à travers ce que des gens comme ceux qui vont parler tout à l'heure évoqueront, elle laisse une trace.